Bonjour Arnaud.
Bonjour Stanislas.
Eh bien, nous voici sur ce sixième cours dédié à la préparation de l'examen 70533, qui est un MCP Microsoft qui s'appelle Implémenter les solutions d'infrastructure d'Azure. Donc, ce cours est le sixième, il y en a eu cinq avant. Et dans ce cours, nous allons parler de tout ce qui est la partie en fait réseau virtuel. Donc, l'objectif, effectivement, le cours il est très orienté pour la préparation de la certification 70533. Il peut servir également pour ceux qui passent la 70532, parce que fondamentalement, sur la partie réseau virtuel, c'est à peu près pareil, voire même un petit peu pour les questions de la 70534 concernant le réseau. Dans ce module, dans ce cours, nous allons voir donc la configuration des réseaux virtuels. On va voir comment les modifier également. Ça, c'est des questions assez typiques de l'examen, tout ce qui est modification de réseau virtuel. On parlera de la conception et de l'implémentation de connexions hybrides, c'est-à-dire entre de l'informatique sur site et des réseaux virtuels qui sont dans Azure. Et on parlera donc de multisite. On est, je le rappelle encore, dans l'optique de préparer cette certification, la 70533, implémentation des solutions d'infrastructure d'Azure. Donc cet examen, pour rappel, il comprend 50 questions. C'est un QCM. Donc, en gros, on coche soit une réponse possible par question, soit des choix multiples. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas un bullet point, ce sera juste des cases à cocher. On peut avoir plusieurs réponses à une même question. L'examen est toujours disponible uniquement en anglais ou en japonais pour les plus nipophiles d'entre nous. Donc, l'examen couvre en gros un spectre assez large de la partie infrastructure d'Azure, les websites, les machines virtuelles, tout ce qui est stockage. Le réseau, donc c'est l'objectif de ce cours, Active Directory, un petit peu de backup, un petit peu de site recovery, et puis tout ce qui est cloud service. Plus d'informations, le lien suivant, donc exam 70533.spx sur microsoft.com. On va commencer ce premier module, et puis on va voir un petit peu c'est quoi les réseaux virtuels et comment on les configure.
Eh bien, on attaque effectivement directement avec le module 1 qui concerne la configuration des réseaux virtuels. Alors, les réseaux virtuels, on les connaît dans Azure. On est à l'intérieur assez vraisemblablement de la RFC 1918, ce qui veut dire que c'est des réseaux de type 192, 168, 10.0 et 172.16. Donc, c'est ce qui est possible par défaut. On peut aussi faire du Bring Your Own IP, mais ce n'est pas ce qu'on recommande. Et plutôt dans l'optique de la certification, on peut plutôt recommander ces adresses à l'intérieur de la RFC 1918. Le choix, c'est qu'on va créer des réseaux virtuels. À l'intérieur de ces réseaux virtuels, on va créer des sous-réseaux virtuels. Et c'est à l'intérieur de ces sous-réseaux qu'on va positionner des machines virtuelles. Les machines virtuelles qui sont positionnées à l'intérieur de ces réseaux auront la possibilité de communiquer entre elles de manière complète, c'est-à-dire que le réseau virtuel va faire le routage entre les sous-réseaux virtuels pour vous automatiquement. Et puis, point à noter qui est très important, quand vous placez une machine virtuelle à l'intérieur d'un réseau ou d'un sous-réseau virtuel, l'adresse est distribuée automatiquement à la machine. Donc, on ne va surtout pas dans les propriétés TCP/IP de la machine pour aller configurer l'adresse IP manuellement. Ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça peut marcher, ça a une durée de vie très limitée. C'est bien Azure qui doit distribuer l'adresse IP à la machine à l'intérieur du VNet.
Donc, point important qu'on peut avoir comme question de certification, c'est comment affecter une adresse IP statique à une machine. Aujourd'hui, c'est Command PowerShell, principalement la bonne réponse.
Command PowerShell, le portail qui est actuellement preview permet également de le faire, mais la réponse principale sera sans doute Command PowerShell.
Voilà, pas de question sur le portail en nouvelle génération, normalement, dans la certification. Point important avec distribution des paramétrages IP aux machines virtuelles. Donc là, on parle des adresses IP internes dans le data center d'Azure. Vient également tout ce qui est résolution de nom, avec la distribution des paramètres et des options telles que les serveurs DNS. C'est là deux options, Arnaud.
Mais soit on vient avec un DNS à l'intérieur de la machine virtuelle, donc c'est un bind, c'est du Linux ou un Windows, le serveur DNS de Windows, par exemple si c'est Windows. Mais si on n'a pas besoin d'opérations DNS avancées, on a également le DNS intégré d'Azure qui va permettre de résoudre les noms essentiellement vers l'extérieur du réseau et puis à l'intérieur des machines virtuelles qui sont dans le réseau virtuel. Point à noter important parce que on n'a pas de communication de type broadcast et de type multicast qui soit supportée entre les machines à l'intérieur d'un réseau virtuel. Donc on devra passer par ces mécanismes-là. En matière de configuration de ces réseaux virtuels, on l'a dit, on est sur l'adresse IP, IPv4 naturellement pour le moment. À noter, c'est qu'on peut avoir plusieurs interfaces réseau par machine virtuel, c'est assez récent. Donc vraisemblablement pour l'examen, il est assez raisonnable de penser que la bonne réponse est qu'il y a une seule carte réseau comme point de considération. De toute façon, il n'y a uniquement que la première carte réseau qui a la possibilité de communiquer avec l'extérieur pour le moment. On le disait, la commande PowerShell qui permet de s'attribuer, enfin de demander une adresse IP statique à une machine virtuelle, c'est get Azure Static VNet IP. Et ensuite, pour définir cette adresse IP et l'attribuer à une machine, on utilise la commande set Azure Static VNet IP.
Ça, c'est super important à retenir, les commandes PowerShell, parce que probablement que s'il y a des questions sur le réseau, sur ces points-là, ce sera sous la forme de commandes PowerShell qui sont déjà plus ou moins écrites et dans lesquelles il faut venir ajouter des blocs manquants. Donc, on sélectionne effectivement les bonnes réponses. Beaucoup de commandes PowerShell dans l'examen sont sous la forme de commandes assez longues et pipées, c'est-à-dire qu'on a une première commande qui va générer un résultat qui est envoyé dans le pipe et réutilisé dans la deuxième commande. Donc attention, effectivement, relisez un petit peu, refaites un petit peu de... Faites une recherche sur TechNet ou MSDN sur ces deux commandes, get Azure IP, VNet IP et set Azure Static VNet IP. Et regardez un petit peu les exemples, ça vous donnera un petit peu l'occasion comme ça d'être à l'aise.
Petit point qu'il faut conserver en mémoire tout le temps, c'est que 4 adresses IP sont réservées à l'intérieur de chaque réseau virtuel, donc les adresses IP réseau classique, et puis les adresses IP de routage d'Azure, des passerelles d'Azure qui permettent à votre réseau virtuel de discuter entre les différents sous-réseaux virtuels et puis avec le monde extérieur.
Du coup, ça typiquement, ça peut faire l'objet de questions de dire « je mets une première machine virtuelle dans un VNet, quelle adresse IP elle va avoir ?» Probablement, ça va commencer à l'adresse IP numéro 3. Parce que les deux premières ou trois premières, 0, 1 et 2, sont déjà réservées et la 255 est également réservée. Yes. 0, 1, 2, 255, et bien ça nous fait ces quatre fameuses adresses IP qui sont réservées par VNet. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer à partir de l'adresse numéro 3 et plus loin.
Plutôt que d'en parler, je propose qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble lors d'une démonstration, cette
bien
création
sûr.
De réseau virtuel. Donc on va passer sur ma console Azure, donc on passe sur le portail manage.windows Azure. À l'intérieur de ce portail, on a les différentes sections qui concernent les différentes technologies de Microsoft Azure. Donc on va dans la partie réseau ici, et puis on va pouvoir effectivement créer dans la partie Virtual Network, on a plusieurs sections. On a une première option qui est de créer rapidement un réseau, on a une option de création personnalisée. On a ensuite une option qui permet d'importer la configuration, d'enregistrer des serveurs DNS et d'ajouter des réseaux locaux. Alors à quoi ça correspond ces trois dernières parties? Quand on va faire des opérations sur les réseaux et qu'on va devoir reproduire une configuration d'un réseau à l'autre, d'un abonnement Azure à l'autre, on va en fait pas utiliser vraiment du PowerShell, mais on va prendre un fichier XML de définition de réseau et puis on va l'importer comme ça d'un abonnement à l'autre. Donc c'est cette option d'importation de la configuration qui est présente ici.
Donc ça c'est pas neutre un petit peu cette phrase, c'est effectivement si on veut reproduire un environnement, le réseau d'un environnement ou le paramétrage réseau d'un ensemble d'un environnement A vers un environnement B, prod vers pré-prod, prod vers test, effectivement dans l'ordre c'est j'exporte, j'édite et je modifie mes noms et je réimporte à côté.
Exactement, et on verra ça dans quelques minutes à quoi ça correspond. C'est du XML assez classique, hein, aussi joli que peut être du XML.
Je crois que le JSON est pas mal non plus dans le genre.
Exactement. Alors, on va se faire cette création de ce premier réseau. Alors, je prends le custom create, on va lui donner un nom, donc MVA, par exemple, MCP. On va choisir un emplacement pour ce réseau. L'emplacement, c'est une notion importante. On voit qu'on n'a plus dans l'interface cette notion de groupe d'affinité qui était présent jusqu'à présent, puisque les réseaux virtuels sont désormais régionaux. On a ensuite le deuxième écran qui nous permet de choisir les serveurs DNS et la connectivité qu'on veut avoir, la VPN Connectivity. On va reparler tout à l'heure de la connectivité VPN. On parle pour l'instant premièrement du DNS. Le DNS, c'est quoi? C'est un champ texte qu'on va remplir avec une adresse IP qui va être distribuée aux machines virtuelles à l'intérieur du réseau virtuel. Tout simplement parce que, on l'a dit, on va distribuer par DHCP des informations concernant la configuration de ces machines, et donc du coup, on va pouvoir spécifier ici, je peux en entrer un, ou alors je peux prendre un DNS que j'ai spécifié au préalable. Ici j'ai pris DNS test avec une adresse, ne le refaites pas chez vous, hein, qui est 1.2.3.4. On peut en rajouter d'autres. À noter, si on ne spécifie rien, c'est par défaut le DNS d'Azure qui va servir pour la résolution de nom de vos machines virtuelles. On a défini cette configuration. On va maintenant définir l'espace d'adressage. Donc là, on voit la configuration du Virtual Network Address Space. On a par défaut une adresse qui est créée à l'intérieur de la plage 10.0.0.0/8. Il nous a pris un slash 8. On va rajouter par exemple ici plusieurs slash 16. Comme ça, c'est relativement simple et facile à comprendre. On peut lui spécifier un petit nom. Par exemple, front-end. On spécifie un deuxième nom pour back-end avec également un slash 16. On peut rajouter comme ça, autant de subnets que l'espace d'adressage le permet évidemment. On peut rajouter de l'espace d'adressage. Alors, on le disait, hein, l'espace d'adressage sera très vraisemblablement de la RFC 1918. C'est quand même beaucoup plus sage que d'essayer de reproduire l'Internet à l'intérieur d'Azure. Donc, on valide cette création de mon réseau. Ça prend quelques secondes. C'est très dynamique et très facile à créer puisqu'on utilise derrière la virtualisation de réseau qu'on connaît dans le monde du data center avec Hyper-V Network Virtualization. Donc il n'y a pas de VLANisation de tous les côtés. On utilise l'encapsulation NVGRE pour faire cohabiter ces différentes communications sur le réseau du data center Azure. Et puis je vois que j'ai bien effectivement créé mon réseau virtuel avec MVA MCP. Alors si on regarde dans le dashboard qui est créé pour ce réseau, on voit bien qu'on a son emplacement. Là ici dans la partie ressources, je vois un nom, rôle et IP adresse. J'ai pour l'instant rien qui est spécifié dans la mesure où le réseau virtuel est vide. Mais une fois que j'aurai placé des machines virtuelles à l'intérieur de ce réseau, eh bien je verrai effectivement l'adresse IP de la machine, l'adresse IP de la première carte réseau de la machine. Et puis comme ça, je pourrai voir qui est présent sur le réseau. Si je retourne dans la partie configuration, j'ai ici toujours une vue sur les serveurs DNS qui sont présents dans mon environnement. J'ai une vue sur la connectivité point à site et site à site. On va en discuter. Et puis, j'ai la partie certificat qui est nécessaire pour la partie point à site. Mais on va en rediscuter de tout à l'heure. Alors ça, c'est pour la partie de créer un réseau virtuel dans Azure pour positionner des machines virtuelles dans Azure. On parlait tout à l'heure des différentes sections de cet écran. J'ai bien la partie réseau virtuel, j'ai la partie DNS Server et la partie Local Network. Si je vais dans la partie DNS Server, je vois ici simplement une liste de noms et d'adresses IP. C'est ce qui va être distribué à mes machines. J'ai ici, la définition de mes réseaux virtuels, je peux faire un export de la configuration. Et en fait, ici, il me demande si je veux exporter la configuration réseau. Il me demande quel abonnement je veux utiliser. Donc, je prends l'abonnement, par exemple, Pro d'Arnaud. Et je vais exporter comme ça un fichier XML. Ce fichier XML, c'est celui-là même que je vais utiliser si je dois faire des modifications sur mon environnement. Par exemple, rajouter des réseaux, je veux un petit peu comme ça systématiser, programmer l'ajout de réseaux. Si on regarde à ce fichier XML, à quoi ça correspond? Eh bien, on voit en fait dans ce fichier XML qu'on a bien ici une section qui concerne la définition de mes serveurs DNS. Donc là, on a vu tout à l'heure DNS test avec l'adresse IP 1.2.3.4. Vous vous en doutez, je peux facilement en rajouter. Donc là ici, pour l'exemple, on va prendre DNS serveur. Je vais rajouter DNS test 2, dans lequel je vais spécifier l'adresse IP 2.3.4.5. Donc, c'est assez simple en matière d'édition et de syntaxe. J'ai tout un ensemble ici de spécifications qui concernent la partie local network site. Alors, on n'en parle pas, c'est la partie de définition pour les réseaux à l'intérieur de mon data center, dans la connexion site à site. On en reparlera tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse dans cette section, c'est la partie Virtual Network Site. Virtual Network Site. Et là, je vois bien que j'ai bien la définition de MVA, MVANet, que j'ai spécifié en North Europe. J'ai l'adresse space qui est spécifiée, adresse préfixe en 10.0.0.0/8. Et puis j'ai différents subnets qui m'ont été ajoutés. Donc là, je fais subnet 1, 2, 3. Et surtout, section très importante, je me suis laissé dire que ça pourrait faire partie des questions présentes lors de l'examen. Je dois vérifier que mon serveur DNS est bien référencé. Donc en fait, on a une section ici à l'intérieur du Virtual Network Site qui s'appelle DNS Server Ref, qui va simplement dire DNS Server Ref Name égale DNS Test, qui fait une référence en fait à la spécification de mon serveur DNS que j'ai défini quelques lignes plus haut. Donc c'est du XML, l'avantage c'est que ça s'édite pas trop mal. On peut simplement prendre une section ici et puis rajouter un subnet 4. Ce subnet 4, je vais lui rajouter le le préfixe 10.3.0.0/16. Et puis, comme on est joueur, on peut aussi rajouter une référence à mon serveur DNS secondaire ici, que je viens de rajouter dans la section DNS serveur ref. Donc on va valider ce changement dans notre fichier de configuration. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir le réimporter. Alors ce qui est intéressant avec l'assistant, c'est que quand on va faire cette phase d'import, en fait il va analyser la configuration qui est live, et puis analyser le fichier d'import qu'on est en train de lui passer, et puis il va dire tiens, j'ai détecté ça comme changement dans la configuration que tu veux me proposer, est-ce que tu valides que c'est bien ce que tu m'as demandé de faire? On valide et c'est comme ça. Donc on va faire ça tranquillement, import configuration. On va ici regarder dans les fichiers de configuration. Donc j'ai network config MVA, c'est le fichier que j'étais en train d'éditer. Je fais l'étape d'après. Là, il a détecté qu'il n'y avait pas de changement sur ma définition de mes réseaux locaux. Il a détecté par contre que j'avais une création. On le voit bien ici, Stanislas à l'écran, hein, le DNS test 2 donc qui a été rajouté avec un petit plus pour le create. On voit que j'ai eu un update pour MVANet et puis que je spécifie la suppression du réseau MVA-MCP puisque c'est celui que je viens de créer et je ne l'avais pas encore à l'époque où j'ai validé mon environnement. Donc on va pouvoir comme ça valider les changements. Il fait l'import de la configuration et puis après quelques secondes, on aura en fait ce changement qui sera effectif dans l'environnement. Donc c'est une partie assez importante. Si vous ne l'avez pas encore fait, là on voit que la configuration réseau est en train de mettre mis à jour, on a les petites icônes qui fait updating. Si vous n'avez pas encore regardé cette syntaxe du fichier XML, c'est relativement simple. Ayez ça en tête avant d'aller en salle d'examen. Donc voilà pour un petit tour d'horizon très rapide de création des réseaux et puis on s'est fait aussi modification des réseaux avec le fichier des VM. Si on regarde, si on va dans la partie configuration, ben on voit bien que j'ai bien rajouté ici subnet 1, 2, 3 et j'ai bien rajouté le 4 qui est présent dans ma configuration. Et puis si je reviens dans mon abonnement, dans DNS Server, ben j'ai bien DNS Test 2 qui a été rajouté avec 2.3.4.5.
Donc bien penser à regarder cette partie XML pour l'examen. Donc exporter, créez-vous un VNet et exportez la configuration. Essayez de le modifier, de le réimporter. Et puis on va reparler de la résolution de nom. On va re-switcher sur les slides. Donc deux types de résolution de nom, on l'a dit tout à l'heure, on va juste rentrer dans le détail maintenant. La première, c'est Azure Name Resolution, qui est en gros le mécanisme qui est fourni de base pour toute VM qu'on déploie comme ça sans se poser de questions.
Très basique, hein. Pas de d'enregistrement de type SRV qu'on peut lui placer, pas de CNAME non plus.
Là, tu viens de répondre en fait un problème simple, c'est que le SRV, c'est des enregistrements nécessaires pour fonctionner dans un environnement de type Active Directory. Donc c'est-à-dire que si on veut faire des machines qui sont membres d'un domaine, il ne faut pas utiliser l'Azure Name Resolution. Ça peut être une piste pour éventuellement une question à l'examen.
Exactement. Donc dans cette optique-là, qu'est-ce qu'on fait? On utilisera un serveur DNS qu'on va rajouter à l'intérieur d'Azure. Ce serveur DNS sera sans doute celui qui viendra avec le contrôleur domaine, on va dire. Donc là, les étapes, elles sont assez simples. Hein. Dans une configuration réseau qu'on veut faire, on va réserver une adresse IP statique pour le DNS, pour le serveur DNS, avec la commande PowerShell qu'on a vue. On va récupérer cette adresse IP qui a été réservée, faire la promotion du DNS, DC, etc. Éditer la plage DHCP pour mon VNet en spécifiant cette adresse IP statique. Et puis à partir de là, j'ai envie de dire, en avant Guingamp, hein, pour la création des VM, elles auront bien la référence à cette adresse IP, elles pourront résoudre le nom avec tout ce qui est nécessaire. C'est aussi important quand on va faire, par exemple, un mode hybride où on va avoir une cohérence, on va avoir besoin d'une cohérence en matière de résolution de nom entre ce qui est fait dans mon data center et ce qui est fait à l'intérieur d'Azure.
Sous réserve qu'on veut y avoir le même Active Directory réparti sur les deux.
Sous réserve qu'on part de ce postulat, évidemment.
Donc là, on était sur les VNet, on était très orienté sur la partie effectivement adresse IP interne, entre guillemets, vue par les machines. Maintenant, ces machines, elles sont accessibles depuis l'extérieur, et ça fait partie également des fonctionnalités soumises potentiellement à question à l'examen, qui est tout ce qui est adresse IP publique. De base, l'adresse IP est dynamique, c'est-à-dire que si on arrête toutes les machines qui sont dans un cloud service, qu'on attend un certain temps, l'adresse publique est réallouée à un autre locataire d'Azure.
Voilà.
Et du coup, effectivement, au-delà de l'examen, on se pose toujours la question, nous clients nous posons la question, mais comment on fait pour être certain que l'adresse IP n'a pas changé? Parce que mon DNS qui est externe à Azure, je l'ai paramétré pour dire tel nom égale cette adresse IP.
Exactement. Donc pour ça, on a une commande PowerShell, hein, toujours, c'est new Azure reserved IP. Alors ça va me réserver concrètement une adresse IP publique disponible sur l'internet, cette adresse IP-là. Ensuite, vous aurez la possibilité de la mapper, de l'attribuer à un cloud service. Et puis, si vous faites une opération, on va dire, de maintenance, ou vous changez un service, vous avez la possibilité de la remapper vers un autre service. Donc, par défaut, il y a un certain nombre de remapping qui sont disponibles. Il y en a 100 qui est disponible par défaut. Et puis, on a également 5 adresses IP qu'on peut réserver avec un abonnement Azure.
5 adresses IP V4 publiques.
Donc ça veut dire qu'on accélère encore le mouvement de la dépréciation des adresses IPv4, ce qui est assez sympathique. Alors pour éviter que ce soit les portes ouvertes à toutes les fenêtres,
donc à du gâchis, pour
voilà, en fait ce qu'on fait c'est que si une adresse IP est réservée et attribuée à un cloud service effectif en production, bah alors on considère que ça fait partie du business. C'est normal, on ne vous facture pas l'adresse IP. Par contre, si vous facturez une adresse IP, vous faites une parking d'une adresse IP, mais que vous ne l'utilisez pas, que ce n'est pas attribué à un cloud service, alors là, on va vous la facturer. Parce que bah, c'est normal de facturer pour une ressource qu'on n'utilise pas et qui est rare sur le monde d'Internet.
Normal. Donc, à retenir principalement de cette slide, que New Azure Reserved IP ou Get Azure Reserved IP, c'est fait pour les adresses IP qui sont public au-delà, enfin, au niveau du load balancer et non pas pour les adresses IP internes. Donc ce n'est pas cette commande-là pour réserver une adresse IP statique. C'est une autre commande, vous voyez bien la différence. Là-dedans, ça peut être soumis à des questions un petit peu vaches.
Exactement. Alors là, d'après le schéma, on voit bien que quand on a une adresse IP attribuée depuis l'extérieur, depuis l'Internet et qui est spécifiée sur le load balancer d'Azure qu'on voit ici en vert, cette adresse IP-là, elle est réservée à la VM. Et puis ensuite, on va définir des règles on va dire, c'est du port forwarding vers les machines virtuelles à l'intérieur du réseau. Maintenant, on a un besoin de certain nombre de clients qui disent, voilà, j'ai besoin d'une adresse IP qui soit réservée par instance, par machine virtuelle. C'est aussi une possibilité qu'on a avec Azure, c'est de utiliser ce qu'on appelle une attribution d'adresse IP par instance. Et cette attribution d'adresse IP par instance, pareil, ça va être un get Azure public IP, va permettre de donner comme ça une adresse IP directement adressable depuis l'extérieur vers une machine à l'intérieur d'un VNet. Notion importante à avoir, évidemment. Rappelez-vous, hein, une machine publiée depuis l'extérieur, vous aurez évidemment possibilité de faire tous les mappings classiques, mais ça veut dire que le firewall hôte est important sur le serveur qui est au bout de cet accès.
Là encore, compte pour chaîne importante, remarquez un petit peu la différence de la syntaxe. Là, c'est Azure Public IP, alors Claude, c'était Azure Reserved IP. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça vous permet de imaginer le jeu de questions qu'on peut vous faire là-dessus ou qui peuvent avoir à la certification là-dessus. Donc soyez bien à l'aise en disant que voilà, ça c'est fait pour une VM, ça c'est fait pour un cloud service.
Get Azure Public IP, c'est pour une instance de machine virtuelle, exactement. Voilà. Alors, autre étape, toujours dans le contexte extérieur, le contexte de l'accès depuis l'extérieur d'un réseau virtuel Azure, Traffic Manager. Alors, qu'est-ce que Traffic Manager, Stanislas ?
Eh ben, en fait, c'est un service entre guillemets, de résolution de nom externe, et on va dire que c'est un répartiteur de trafic, un petit peu. Oui, c'est ça, c'est un répartiteur de trafic. Donc l'idée, c'est de renvoyer, en fait, depuis un nom générique, de faire un alias sur le nom, par exemple, du site web, sur un alias qui sera un alias réservé en fait, à Traffic Manager, et c'est ensuite Traffic Manager qui va renvoyer les requêtes vers tel ou tel endroit. C'est pas une sorte d'équilibrage de charge, mais de répartition et de réaiguillage, on va dire, de trafic. Donc ça marche pour tout ce qui est cloud service, ça marche pour les sites web, les Azure Websites, pardon. Et puis pour tout ce qui est, éventuellement, on peut envoyer du trafic également vers un site web qui serait sur votre data center, par exemple, page de maintenance ou autre.
Data center, même autre service de cloud.
Exactement. Et ce service-là, en fait, va s'occuper de vérifier, avant d'envoyer les paquets, que le service en face est bien disponible. C'est-à-dire que le service HTTP ou HTTPS, on travaille que sur ces protocoles-là, est bien disponible avant d'envoyer la requête et de rediriger les clients là-dessus. Ce qui est important à retenir, principalement pour l'examen, c'est qu'on a 3 modes de répartition de charge. Le premier, dit performance, qui en gros va envoyer l'utilisateur ou la requête d'utilisateur vers les serveurs les plus proches. On parle de latence, hein, basiquement. Donc, si effectivement l'utilisateur est aux États-Unis, on va le renvoyer le plus proche des États-Unis en termes de latence. Le round robin, on ne va pas leur expliquer, mais c'est la fameuse liste déroulante, c'est-à-dire je redirige vers 3 endroits différents. Et ben, la première requête cliente va aller vers le premier endroit, la deuxième va aller vers le deuxième endroit, la troisième vers le troisième, et la quatrième retourne vers le premier. Et on tourne round robin.
Comme tourniquet en français.
Tourniquet, ah oui,
c'est un tourniquet,
je l'ai jamais utilisé en tourniquet. Oh, oui, tourniquet, effectivement, en québécois. tourniquet. Et le failover, qui est lui est plus simple en fait, c'est il envoie en fait un site principal et puis quand le site principal ne répond pas parce qu'il y a une vérification justement de la connectivité HTTP ou HTTPS, eh bien ça renvoie au site de backup, la page de maintenance par exemple 404 ou autre. Enfin 404 bien remappé, bien joli en disant il y a un problème de maintenance. À retenir, c'est vraiment 3 modes par répartition au plus proche performance, manière équilibrée répartie sur les équilibrer les requêtes sur X endroits différents sera le round robin. Et le failover, c'est vraiment juste pour gérer la panne, en fait.
On regarde à quoi ça ressemble dans l'interface.
Oui, volontiers.
Hop, allez, on retourne dans la console Azure ici. Toujours dans la partie réseau, on a New Network Service. Et ici, Traffic Manager, on a l'option Quick Create. Il nous demande un nom, eh bien MVA. mcp.trafficmanager.net, il vérifie que c'est bien disponible, c'est vert et le nom lui convient. Là, il nous demande de choisir la méthode de load balancing, on vient de les mentionner, performance, round robin ou failover. On va prendre ici le mode performance. À partir de la création de ce Traffic Manager, on voit que par défaut, il est inactif. Ce sera à nous d'aller l'activer une fois qu'on aura fait la configuration. Inactif simplement parce qu'il n'y a pas d'endpoint derrière. Pour l'instant, il y a juste MVA,
MCP. L'endpoint, en fait, c'est les services qui vont être sur lesquels le load balancer va renvoyer, enfin le Traffic Manager va renvoyer les requêtes.
Donc là, j'ai mon MVA MCP avec mon log opérationnel qui est visible, mon TTL DNS que je peux modifier si j'ai besoin d'être plus agressif dans les paramètres de caching que je vais donner à mes machines clientes qui vont me demander des noms.
Ça peut être une question aussi à l'examen sur les paramètres de caching et le TTL.
Exactement. Si je vais dans la partie configuration, et bien dans la partie configuration, je revois simplement ces paramètres hein, dont je parle. Donc je peux aller modifier la partie de méthode de load balancing. Je vois le monitoring, donc soit en HTTP, soit en HTTPS. Et puis c'est ensuite que je vais définir les endpoints. Donc la définition des endpoints, c'est là où je vais dire, voilà, add endpoint. Je renvoie ce endpoint, c'est un cloud service ou c'est une application web. Je vais choisir ensuite le cloud service que je veux mettre dans cette configuration. Il va me donner les paramètres pour vérifier comment ça fonctionne. Donc voilà à peu près à quoi ça correspond. L'interface n'est pas transcendante. Hein. Donc voilà. C'est un petit peu artificiel, mais voilà à quoi ça correspond.
Et en termes de paramétrage, n'oublions pas que si vous avez, je sais pas, www.arnaud.fr par exemple, tu vas faire un CNAME qui va le faire pointer sur le nom que tu as donné, .trafficmanager, vers ton CD. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Très bien. À noter, on peut faire du nesting de Azure Traffic Manager à l'intérieur de Traffic Manager. On peut
définir Traffic Manager pour envoyer un Traffic Manager.
Exactement. Par exemple, on va pouvoir définir comme ça un nom globalement pour le monde, un www.contoso.com, qui va ensuite définir un Traffic Manager, par exemple, pour l'Amérique du Nord. À l'intérieur de ce qu'elle, on aura un Traffic Manager Est, Central et Ouest. Et puis comme ça, on pourra faire du nesting à plusieurs niveaux pour optimiser comme ça, avoir bien une répartition très détaillée du la résolution DNS de trafic.
Ouais, à ma connaissance, il n'y a pas de question sur le nesting, mais non. C'est juste à savoir, effectivement, c'est qu'on peut le faire.
C'est une possibilité.
Alors, quand on parle de réseau, on parle également de filtrage. On a des ACL qui existent sur les virtual networks. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot?
Alors, effectivement, par défaut, toutes les communications sont possibles dans les réseaux virtuels. Donc là, la première question va nous dire tout bon administrateur réseau, c'est comment est-ce que je bloque des communications? Eh bien, par défaut, effectivement, on a des ACL qui vont être positionnés, qui vont dire pour la communication entrante, ne serait-ce que pour la communication entrante, prends le port 80 et publie-le sur l'ensemble des VM à l'intérieur du réseau. C'est les règles par défaut, mais on a la possibilité d'en rajouter à l'intérieur des réseaux virtuels pour dire effectivement possibilité de communiquer entre telle et telle machine à l'intérieur de mon réseau. Donc si on regarde un petit peu en PowerShell à quoi ça correspond, ben, on définit un objet PowerShell en fait, ici ACL1 new Azure ACL config. On définit l'Azure ACL config en ajoutant une règle, en spécifiant l'objet ACL ACL1, l'ordre de l'ACL, tout est ordonné.
On va dire le plus bas et le dernier exécuté, c'est ça?
Habituellement, c'est comme ça que ça marche, ouais.
Effectivement.
Donc, on définit l'ordre, on définit l'action, est-ce que c'est un permit ou est-ce que c'est un deny, et puis on lui dit le subnet distant, et puis on va dire j'autorise telle communication avec ce subnet distant.
Petit point, rappel réseau IPv4, 0.0.0/0 égale tout l'Internet.
Effectivement.
Ce qui explique que la dernière règle, en fait, sera probablement soit une règle, si la dernière règle sera probablement celle qui aura été créée par défaut quand on crée une VM, par exemple, qui autorise le SSH ou le remote desktop, par exemple.
Ouais, petite règle réseau qui pourrait servir à l'examen, effectivement.
Du coup, un exemple d'ACL réseau, un premier exemple, où là, je demande un exemple de commande avec pas mal de pipes. Donc, get Azure VM-service name, name service, name VM name. Donc là, on voit effectivement qu'on récupère pour un cloud service donné les noms des machines virtuelles. Et du coup, on rajoute pour ces machines virtuelles un Azure Endpoint qui va s'appeler Web. Donc le protocole TCP port 80, port public 80, ça veut dire que sur le load balancer, on va ouvrir le port 80 et qu'on va rediriger l'ensemble des flux à l'intérieur sur le port 80 également, avec une
Classique.
ACL derrière. Et donc on va appliquer ça sur l'ensemble des machines virtuelles d'un cloud service donné. Et on pipe derrière avec un update Azure VM pour être en sorte que cette configuration soit prise en charge par l'ensemble des machines virtuelles.
Alors, ça, les ACL, c'est bien, mais il y a mieux.
Il y a mieux. Alors, il y a peut-être une question à l'examen sur ce point-là, mais ce sera ACL ou Network Security Group, c'est assez rare qu'il y ait les deux. Network Security Group, dans la pratique, c'est plutôt ce qu'on va utiliser versus les ACL, parce que c'est un petit peu plus puissant. L'idée, là encore, c'est de pouvoir répondre à ce besoin de dire, je voudrais recréer des DMZ ou du filtrage entre mes frontaux web, par exemple, et ma base de données SQL. Donc, réellement, c'est des ACL étendus. Donc, c'est le futur, entre guillemets, de l'ACL. Même s'il y a des commandes ACL qui sont demandées à l'examen, dans la vraie vie, on utilisera tous les Network Security Group.
Je crois que la grosse différence, c'est que sur les ACL, on est positionné plutôt au niveau de la VM, alors que sur les Network Security Group, on est passé plutôt au niveau du réseau. Donc on n'a pas besoin de
Alors,
changer à chaque fois.
oui et non, parce qu'en oui, mais oui et non, parce qu'en fait, on peut appliquer le Network Security Group soit à l'échelle d'un VNet, soit à l'échelle d'une VM. On peut le faire à l'échelle d'une VM également. À savoir, c'est que au total, dans les règles qu'on va faire dans un Network Security Group, on a 200 règles maximum à l'intérieur. De toute façon, l'interface étant aujourd'hui disponible qu'en PowerShell, c'est pas très raisonnable de faire ce genre de choses. Et à noter, c'est que NSG et ACL ne cohabitent pas ensemble.
Il faut faire un choix philosophique.
Point important. Pareil, les règles par défaut ne se suppriment pas, mais comment on va pouvoir gérer les priorités exactement comme les ACL, eh bien, du coup, on réempile des règles par-dessus.
Alors à quoi ça ressemble un
En
NSG,
PowerShell?
peut-être un peu de PowerShell
Ouais.
encore?
Donc, Get Azure Network Security Group, ça va vous lister l'ensemble des Network Security Group qui sont configurés à un instant T. Quand vous voulez créer un nouveau Network Security Group, eh bien, vous allez donc faire un New Azure Network Security Group, son nom. Vous allez donner l'endroit où est-ce que ça se place, donc, parce que ça va s'appliquer effectivement sur un VNet, mais le Network Security Group s'applique sur une région en fait. Donc, c'est pour ça qu'ici on est mis North Europe, qui, comme tout le monde le sait, est le data center de Dublin. Et le label, c'est juste un nom derrière pour après la lisibilité, parce que c'est du texte qu'on va avoir. Et si on fait donc un Get Azure Network Security Group avec le nom effectivement du NSG qu'on a créé au préalable, on va voir en fait qu'il existe des règles par défaut, règles de trafic entrant, règles de trafic sortant, exactement comme tout firewall, entre guillemets. C'est-à-dire de base, on bloque tout ce qui est en entrée et on autorise tout ce qui est en sortie. C'est en général la règle de base.
Relativement
Et c'est après
classique.
effectivement où sur les entrées, on va créer des exceptions, donc des règles avant la règle finale qui vont autoriser des entrées. Et pour les flux sortants, on va rajouter devant la règle finale qui est j'autorise tous les flux sortants, des règles de blocage de sortie.
Parfait.
Exemple, deux exemples de création de règles. Donc ajout par exemple du port entrant TCP 80, donc l'équivalent de ce qu'on a fait dans les ACL tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'on a encore du pipe, c'est-à-dire qu'on récupère effectivement un NSG qui s'appelle Stan Dublin ici. On lui affecte à l'intérieur une règle, donc cette Azure Network Security Group. Cette règle, elle s'appelle Web, elle est de type flux entrant, priorité 100, elle dit qu'on organise effectivement l'ordre des règles. On autorise ici, donc, moins source adresse préfixe quand on met Internet ici, entre guillemets, en gros, c'est l'équivalent du 0.0.0/0. Source port range. Port range. Étoile, ça veut dire qu'on accepte toutes les sources de ports, ce qui est classique quand on fait du web en tout cas. Destination, adresse préfixe, là on a mis tout le monde, donc en gros on dit tout ce qui vient d'Internet à destination de tout le monde, eh bien on autorise, et donc on autorise ça là, en destination du port 80 sur le protocole TCP, pardon. Notez, c'est que
Classique.
NSG comme ACL, on parle de TCP et d'UDP, rien d'autre. D'accord? La deuxième règle, c'est exactement la même chose derrière, mais avec le TCP 3389 qui est le service de bureau distance.
Petite digression par rapport à la certification, hein, mais en tant qu'expert réseau, si tu veux faire un filtrage un petit peu plus évolué, et tu vas dire avant d'aller à l'intérieur de la VM, tu veux faire une inspection par exemple applicative de ce qui est en train de se passer. Parce que là, on redirige simplement avec la stateful inspection sur le port 80 le trafic qui vient de l'extérieur. Mm-hmm. Si on veut aller analyser ce qui se passe au niveau applicatif à l'intérieur du réseau, on peut toujours utiliser des appliances virtuelles à l'intérieur d'Azure. Par exemple de type F5, de type Barracuda et autres, qui vont permettre de prendre effectivement le trafic sur le port 80, faire une inspection applicative, et puis ensuite aller rediriger vers la VM réellement en back-end qui fait ça.
Là, c'est bon à savoir, c'est pas dans la certification, mais c'est, voilà, c'est bon à savoir.
Petit plaisir parce qu'on est entre amis.
Voilà. Alors, le Network Security Group peut également s'appliquer, être associé à une machine virtuelle. Dans ce cas-là, tu vas effectivement récupérer ton security group, tu dis get Azure service name, donc ça c'est ton cloud service. Là tu dis je récupère mon NSG et je vais l'appliquer sur un network security group qui est en fait quoi. On récupère les machines virtuelles qui sont dans un cloud service. Le nom de la machine virtuelle ici c'est NSG 01 Stan, le nom du cloud service c'est Demo NSG Stan, et on affecte donc avec un set Azure Network Security Group config, on va donner le nom du NSG derrière et on met à jour la VM. Donc vous voyez, là encore on a des exemples de pipe. C'est important de bien avoir la mécanique PowerShell du pipe comme ça, parce que clairement toutes les questions sur l'examen sont des questions avec ce genre en fait de commandes, avec des blancs à l'intérieur. Donc il faut bien savoir par où on commence, par où on termine. Donc ça commence très très souvent par un get Azure VM, ça se termine très souvent par un update Azure VM. Et au milieu, mais c'est vrai. Hein, c'est...
Les grands classiques.
Du coup, pareil, pour supprimer une règle, effectivement, on va récupérer en fait la règle dans le NSG, et puis donc ensuite on va faire un remove rule et on nettoie les règles. Un NSG ne peut pas être supprimé s'il a des règles qui existent encore. Donc il faut supprimer toutes les règles qu'on a créées en plus des règles par défaut. Mm-hmm. Et après, effectivement, on peut le supprimer.
Donc s'il ne reste que les règles par défaut, on peut le supprimer.
Oui. Okay. Et tu peux également affecter un NSG à un subnet. Donc on a vu qu'on peut l'affecter à une VM. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour les frontaux web accèdent au back-end qui est une base de données SQL. Mm-hmm. Et on fait une règle qui dit ben, les back-end SQL, on peut y accéder que sur le port TCP, je sais pas, 1433 par exemple, si c'est du SQL Server.
À tout hasard.
Tout hasard. Mais on peut également affecter un SG à un subnet en se disant ben, là, par exemple, j'ai un subnet où il y a un frontal web ou un middleware applicatif qui a tel port, et bien on peut également faire la même chose. Voilà.
Impeccable. Alors. Load balancing, on a vu le load balancing depuis l'extérieur, depuis Internet. On a vu qu'en gros, de toute façon, c'était Azure qui s'en occupait avec différentes options qui nous étaient mises à disposition. À l'intérieur d'un VNet, on va aussi pouvoir faire du load balancing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme ça effectivement, avoir un réseau de front-end web et puis dire à mon front-end web, si tu dois aller discuter avec du back-end SQL, alors tu prends telle adresse IP. Et cette adresse IP, en fait, réellement, c'est Azure qui va s'occuper de faire du load balancing, donc de pointer vers plusieurs adresses IP en back-end. Et ces adresses IP en back-end, ça peut être soit des VM présents sur un VNet, mais ça peut être également autre chose. C'est-à-dire que ça peut être des adresses IP qui sont présentes en réalité à l'intérieur de mon data center, ou ça peut être des adresses IP qui sont ailleurs dans un autre data center Azure. Ça nous permet comme ça d'avoir un service qui soit hautement disponible et redondant géographiquement à tout échec qui pourrait arriver à différents niveaux dans Azure. Donc, pour faire ça, new-azure internal load balancer config, on crée le load balancer, et puis ensuite, une fois qu'on a créé la config, on va créer le Azure internal load balancer, donc là, on va créer réellement l'adresse IP, les endpoints qui sont dédiés à ça. Donc, vous l'avez deviné, hein, c'est Azure qui va faire la réécriture d'adresse IP pour faire que ces opérations aboutissent, évidemment. Donc, point important quand on fait ce type de configuration. Création d'une instance, ajout des endpoints, configuration des serveurs pour envoyer leur trafic sur l'adresse IP du internal load balancer, des choses relativement classiques.
On a créé des réseaux virtuels, on peut les faire communiquer entre eux.
Alors, effectivement, selon différentes géographies. Hein.
Donc, effectivement, soit c'est plusieurs VNet qui sont avec des subnets à l'intérieur, donc les subnets se parlent entre eux, ça n'y a pas de souci, mais... Mm-hmm. Plusieurs VNet au sein d'une même région ou inter-région, on peut les interconnecter comme on interconnecte en fait un site local avec un site distant, avec un VPN en fait site à site. Donc on va avoir une passerelle sur chacun des VNet, les deux passerelles vont se parler. On va en reparler tout à l'heure dans la partie VPN site à site, mais retenez que la communication VNet à VNet, basiquement, passe par un VPN. À retenir, c'est que communication InterVNet, c'est gratuit dans une même région. Si on sort d'une région vers une autre, là, ce sera payant, simplement parce qu'il y a les coûts des data qui circulent sur les câbles transatlantiques, transpacifiques ou autres. Voilà. Ajout d'un cloud service dans un réseau virtuel?
Effectivement, on a la possibilité comme ça de faire apparaître un cloud service, donc les instances, les VMroll, Workroll, etc., à l'intérieur d'un réseau virtuel. Donc, on a la possibilité pour ça, la voie, j'ai envie de dire même, de modifier le fichier serviceconfiguration.cscfg.
Dans mon oreillette, on me dit que ça vaut le coup de faire une petite recherche dans votre moteur de recherche préféré sur serviceconfiguration.cfg plus network derrière en mots-clés, juste pour voir à quoi ça ressemble et de bien retenir effectivement les différents types de fichiers de configuration qu'on a au niveau d'un cloud service. Parce que ça, c'est une question relativement classique de dire j'ai tel cloud service et je veux modifier le paramétrage réseau. Quel est le fichier, quelle est l'extension que je vais utiliser? Donc on vous aurait 3-4 propositions. Dans le cas présent ici, on voit que c'est serviceconfiguration.cscfg, mais on ne peut pas le deviner une fois qu'on est devant la feuille. Il faut savoir quel fichier contient quoi.
Donc on ne peut que vous recommander chaudement que de retenir dans le coin de votre tête cloud service à l'intérieur d'un réseau virtuel égale serviceconfiguration.cscfg.
Exactement.
Voilà pour ce premier module qui concerne la création, l'édition des réseaux virtuels. On se retrouve dans quelques instants pour une revue de la modification de manière un petit peu plus formelle des réseaux virtuels.